Cette solennité des saints Pierre et saint Paul que la liturgie nous permet de solenniser en ce dimanche est due à ce qu'en France, cette fête d'obligation qui tombe en réalité le 29 juin n'est pas fériée comme elle l'est encore en Italie par exemple. La fête des saints apôtres Pierre et Paul est à la fois une commémoration reconnaissante des grands témoins de Jésus et une confession solennelle en faveur de l'Église, une sainte catholique et apostolique. C'est tout d'abord une fête de la catholicité. Le pape Benoît XVI nous disait dans son sermon de cette fête en 2012 que la catholicité signifie universalité, multiplicité, qui devient unité. Unité qui demeure toutefois multiplicité à partir de la parole de Paul aux Romains sur l'universalité de l'Église, nous voyons que la capacité des peuples à se dépasser eux-mêmes peut regarder vers l'unique Dieu, fait partie de cette unité. Le fondateur de la théologie catholique, qui est saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, a exprimé d'une très belle façon ce lien entre catholicité et unité. Et je ne résiste pas à la tentation de vous en citer quelques lignes. C'est cette doctrine et cette foi que l'Église, disséminée dans le monde entier, conserve avec diligence, formant presque une unique famille, la même foi avec une seule âme et un seul cœur, la même prédication, enseignement, tradition comme si elle ne possédait qu'une seule bouche. Les langues sont différentes selon les régions, mais la force de la tradition est unique et la même. Les églises d'Allemagne n'ont pas une foi ou une tradition différente, ni même celle d'Espagne, de Gaule, d'Égypte, de Libye, de l'Orient, du centre de la terre. Comme le soleil, créature de Dieu, est un seul et identique dans le monde entier. Ainsi, la lumière de la vraie prédication resplendit partout et éclaire tous les hommes qui veulent venir à la connaissance de la vérité. Ainsi, mes bien chers amis, l'unité des hommes dans leur multiplicité est devenue possible car Dieu, cet unique Dieu du ciel et de la terre, s'est montré à nous. Parce que la vérité essentielle sur notre vie, sur notre d'où et vers où je vais, d'où je viens, est devenu visible quand il s'est montré à nous. Et en Jésus-Christ, nous a fait voir son visage lui-même. Cette vérité, mes bien chers amis, sur l'essence de notre être, sur notre vie, sur notre mort, vérité qui a été rendue visible par Dieu, nous unit et nous fait devenir frères. Catholicité et unité vont donc de pair. Et l'unité a un contenu. La foi que les apôtres nous ont transmise de par le Christ. Nous sommes souvent trop ignorants du dépôt de la foi qui se trouve dans notre catéchisme. Puis-je, mes chers amis, vous demander de prendre comme livre de chevet durant cette période estivale votre catéchisme de l'Église catholique que l'on trouve parfois avec de la poussière sur les rayonnages de vos bibliothèques au lieu d'en trouver les pages usées par une consultation régulière. Les familles de Domus Christiani sont en train de se dire un nouveau devoir de vacances. Plus haut, je vous ai fait remarquer avec Benoît XVI que catholicité de l'Église et unité de l'Église vont de pair. Le fait que ces deux dimensions nous deviennent visibles à travers les figures des saints apôtres nous indique déjà la caractéristique suivante de l'Église. Elle est apostolique. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur a institué 12 apôtres, de même que les fils de Jacob étaient 12, en les désignant ainsi comme les chefs de file du peuple de Dieu, qui est désormais devenu universel, comprend dès lors tous les peuples. Saint Marc nous dit que Jésus appela les apôtres pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher. Mais alors, cela semble presque une contradiction. Nous nous dirions, ou ils sont avec lui, ou alors ils sont envoyés et se mettent en marche. Le saint pape Grégoire le Grand prononça une phrase sur les anges qui nous aide à résoudre cette contradiction. Il dit que les anges sont toujours envoyés et dans le même temps sont toujours devant Dieu. Et il poursuit ainsi. Ils sont envoyés partout, ils vont partout, ils marchent toujours dans le sein de Dieu. D'ailleurs, l'Apocalypse a qualifié les évêques d'anges de leurs églises. Et nous pouvons donc en tirer l'application suivante. Les apôtres et leurs successeurs devraient toujours être avec le Seigneur et précisément ainsi, où qu'ils aillent, être toujours en communion avec lui et vivre de cette communion. De cette réalité, nous devons, par son truchement et dans un principe de subsidiarité, faire la même expérience. Beaucoup de choses changeraient dans le monde si, en avançant dans la vie, le Seigneur était présent dans nos pensées, dans nos actes, dans nos gestes, dans nos paroles, non le dimanche à la messe ou à quelques moments privilégiés de la journée, mais aussi souvent que nous respirons. C'est toute notre vie qui doit être entièrement dans le Seigneur. D'ailleurs, hier, nous fêtions la fête du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons évoqué cette expérience qu'a connue notre Seigneur lorsque le centurion lui a ouvert le côté où il sortit du sang et de l'eau. C'est quelque chose de merveilleux que le Seigneur nous a permis par cette réalité, cette nouvelle souffrance. Il a ouvert son côté pour que nous puissions, nous aussi, entrer par cette porte nouvelle en lui, pour tout réaliser pour lui et par lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pensez-y dans vos méditations, dans votre oraison. Il nous faut avancer, mes amis, avec le Seigneur. À chaque faux pas où nous lâchons la main du Très-Haut, c'est un autre qui prend la place, le diable. Et alors, nous sommes capables de pécher, parce que le Seigneur n'est plus en nous. Cependant, lorsque nous péchons, Dieu ne cesse pas de nous regarder avec bonté et avec amour. Alors nous avons toujours la possibilité de reprendre cette main tendue, non pas par notre propre force, mais par le chemin du confessionnal qui nous fait vivre l'expérience du sacrement où le Seigneur, par l'absolution, nous donne comme un océan d'amour. La confession permet de faire l'expérience de la miséricorde. Je tiens d'ailleurs à ce sujet à m'excuser de mon absence entre les deux messes. Mais c'était pour une bonne cause, puisque j'ai apporté la communion à la maman d'Antoine, qui est née, Antoine Desgarrés d'Ars. Et donc, c'était une grande joie de voir que cette naissance s'est bien passée, puisqu'ils ont connu des naissances très difficiles et très douloureuses. Donc, encore une action de grâce à faire monter au Seigneur. Un petit mot pour conclure sur l'évangile de ce jour qui nous parle de la confession de saint Pierre, à partir de laquelle l'Église a commencé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À travers cette profession de foi, je voudrais attirer ce matin votre attention sur une autre note de l'Église, la sainteté qui rejoint une autre confession de Pierre prononcée au nom des douze à l'heure du grand abandon. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Jean 6, 69. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus, dans la grande prière sacerdotale, dit de se sanctifier pour les disciples, faisant allusion au sacrifice de sa mort. Jésus exprime ainsi implicitement sa fonction de vrai prêtre suprême qui réalise le mystère du jour de la réconciliation. Non plus seulement à travers les rites substitutifs, mais avec l'aspect concret de son corps et de son sang. L'expression « le Saint de Dieu » indiquait Aaron dans l'Ancien Testament comme le prêtre suprême qui avait la tâche d'accomplir la sanctification d'Israël. La confession de Pierre en faveur du Christ, qui déclare le Saint de Dieu, se situe dans le contexte du discours eucharistique, dans lequel Jésus annonce le grand jour de la réconciliation à travers l'offrande de lui-même en sacrifice. « Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Ainsi, dans le cadre de cette confession, se trouve le mystère sacerdotal de Jésus, son sacrifice pour nous tous. L'Église n'est pas sainte par elle-même. Elle est en effet constituée de pécheurs. Nous le savons et nous le voyons tous que trop bien. Mais elle est plutôt toujours à nouveau sanctifiée par le Saint de Dieu, par l'amour purificateur du Christ. Dieu n'a pas seulement parlé, il nous a aimés d'une façon très réaliste, aimés jusqu'à la mort de son propre Fils. C'est précisément là qu'apparaît toute la grandeur, mes amis, de la révélation qui a comme inscrit les blessures dans le cœur de Dieu lui-même. Alors chacun de nous peut personnellement dire avec saint Paul, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Prions le Seigneur, mes chers amis, afin que la vérité de cette parole s'imprime profondément avec sa joie et avec sa responsabilité dans notre cœur. Prions pour qu'en rayonnant à partir de la Sainte Eucharistie, elle devienne toujours davantage la force qui modèle chacune de notre vie. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.